Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 22h à Damas et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, après le bain de sang dans l'ouest du pays, le pouvoir syrien promet de poursuivre les responsables des massacres dans lesquels ont péri un millier de civils. Damas qui a annoncé ce soir la fin de son opération militaire contre les soutiens de l'ex-dictateur Bachar el-Assad. Le président Zelensky en Arabie Saoudite, à la veille des pourparlers avec les Américains à Riyad. Les Ukrainiens entendent proposer une trêve dans les airs et en mer. Une proposition jugée prometteuse par Washington. Sur le fond de la trêve à Gaza, les négociations vont également reprendre. Une délégation israélienne est arrivée à Doha ce soir pour des pourparlers via les médiateurs qatariens avec le Hamas sur la poursuite du cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. Enfin en France, le procès d'une enseignante accusée d'avoir harcelé moralement l'une de ses jeunes élèves, Evaël, 11 ans, qui s'est ensuite suicidée. On rejoindra dans ce journal Baptiste Coulon au tribunal de Pontoise.
RFI.
Après des massacres qui ont donc fait près de 1500 morts, dont un millier de civils, les autorités syriennes ont donc annoncé ce soir mettre fin à l'opération militaire dans l'ouest du pays, après la promesse de poursuivre les responsables des tueries, Muriel Paradon.
Oui, mais selon plusieurs témoignages que nous avons recueillis aujourd'hui, la situation reste tout de même instable sur le terrain. Les milices qui ont commis les exactions contre les civils alaouites et qui ont souvent filmé leurs crimes seraient toujours sur place dans l'ouest de la Syrie. Plusieurs témoins rapportent qu'il s'agit entre autres de miliciens pro-turcs ou d'anciens djihadistes d'origine étrangère venus piller et tuer. Le discours d'Ahmed al-Shara, le président syrien, a beau être rassurant sur le fait d'arrêter les coupables des exactions, ça ne suffit pas. Les témoins interrogés ne lui font pas confiance. N'oubliez pas d'où vient le nouveau président. C'était un islamiste radical, dit l'un d'entre eux, qui ajoute « Les appels à la haine et à la vengeance contre les alaouites se sont propagés dans de nombreux milieux ces derniers jours. » Toujours est-il que beaucoup d'alaouites ont fui leur village. Des milliers de personnes auraient trouvé refuge dans la base russe de Mémine, près de Latakié. Les Russes, anciens soutiens de Bachar el-Assad, d'autres alaouites auraient franchi la frontière pour aller au Liban.
Muriel Paradon du service international de RFI. Et ce soir, ce signe d'ouverture du gouvernement syrien qui annonce un accord avec les Kurdes pour intégrer toutes les institutions civiles et militaires de l'administration autonome kurde dans le cadre de l'État syrien. Cette flambée de violence en Syrie jette en tout cas un doute sur la capacité des nouvelles autorités à gouverner. L'inquiétude de la communauté internationale est très grande, qui, à l'instar de la France, a vigoureusement dénoncé aujourd'hui ces massacres. On écoute le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
J'ai eu l'occasion hier, lorsque je l'ai eu au téléphone, d'exprimer au ministre des Affaires étrangères syrien notre très profonde préoccupation, notre condamnation des exactions qui ont visé les civils et notre appel à ce que les responsables de ces massacres soient jugés et punis pour que ces crimes ne restent pas impunis. C'est l'avenir de la Syrie qui est en jeu, et nous ne voulons pas que la Syrie puisse retomber dans le chaos.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Sur le front du conflit ukrainien maintenant, alors que son pays est sous le feu des Russes, le président Zelensky est arrivé ce soir en Arabie Saoudite, à Riyad, où se tiendra demain la première rencontre entre une délégation ukrainienne et une équipe américaine pour évoquer de futures négociations de paix pour mettre fin à l'invasion russe. Kiev entend notamment proposer une trêve dans les airs et en mer avec la Russie, une proposition jugée prometteuse par le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, qui vient également d'arriver à Riyad. Peut-être un bon signe pour les Ukrainiens qui tenteront également, à la faveur de ces pourparlers, de recoller les morceaux avec les Américains. Après la désastreuse visite du président ukrainien à la Maison-Blanche et la suspension par Washington de l'aide militaire à Kiev, ainsi que le partage de renseignements avec les Ukrainiens. Face à la guerre commerciale initiée par Donald Trump, la réplique de Pékin ne s'est pas fait attendre avec l'entrée en vigueur aujourd'hui de surtaxes douanières imposées par la Chine sur de nombreux produits agricoles américains en mesure de rétorsion. Les précisions de Myriam Berber.
C'est un coup dur pour les agriculteurs américains. Le poulet, le blé, le maïs et le coton vont voir leurs tarifs douaniers augmenter de 15%. Le sorgho, le soja, le porc, le bœuf, les produits de la mer, les fruits, les légumes ainsi que les produits laitiers seront moins surtaxés, 10% seulement. Les autorités chinoises suspendent également les importations de bois américain, invoquant des inquiétudes liées à des parasites, ce qui pourrait représenter un total de 22 milliards de dollars de produits agricoles. Les producteurs américains de céréales, de lait ou de viande sont inquiets. Les exportations vont baisser fortement. En 2018, lors du premier mandat de Donald Trump, la guerre commerciale avec Pékin avait entraîné des pertes de 27 milliards de dollars compensées en grande partie par des aides fédérales. Washington avait versé 23 milliards d'aides aux agriculteurs.
Il est 20h06 à Paris, direction la Colombie, où la guérilla de l'ELN a accordé une rare interview réalisée dans un lieu secret, dans la montagne, près de la frontière vénézuélienne. Il s'agit de la première interview que le front de guerre du Nord-Est accorde aux médias depuis le début des affrontements dans la région à la mi-janvier. De hauts commandants de la guérilla y affirment, que la confrontation va se poursuivre face à l'action militaire de Bogota et parle de guerre total face à ce que le président colombien Gustavo Petro a qualifié, lui, de politique de paix totale. Celui-ci tente de démobiliser tous les groupes armés alors que la région de Catatumbo, dans le nord-est, est en proie à une escalade de la violence. Anne Verdaguet.
Les deux commandants sont assis, fusils à la main, autour d'eux une trentaine de personnes lourdement armées. L'un d'entre eux, qui se présente comme Ricardo, explique que l'ELN n'hésitera pas à combattre les 10 000 soldats de l'armée régulière colombienne rassemblés dans les environs.
Si davantage de militaires continuent d'arriver sur le territoire, il est fort probable que la confrontation persiste, parce que nous allons nous défendre en tant que force insurgée. Nous allons défendre notre histoire, accumulée depuis 50 ans dans le Catatumbo. Cette paix totale dont parle Petro se transformera finalement en guerre totale.
L'ELN, d'inspiration guévariste, mène une guerre contre l'État colombien et prend pour cible depuis la mi-janvier des dissidents des FARC dans la région du Catatumbo pour le contrôle des routes du trafic de cocaïne, ce que nie la commandante Silvana.
Nous avons besoin d'une économie qui ne nous stigmatise pas comme le fait l'État colombien en nous mêlant au narcotrafic. La politique de paix de Petro a été un échec. À ce stade, alors qu'il ne lui reste plus que quelques mois au pouvoir, il n'a plus qu'une seule carte en main. Un prétendu dialogue avec ce groupe, le gang des FARC.
Les violences dans le Catatumbo ont officiellement entraîné le déplacement de près de 56 000 personnes et fait une centaine de morts.
Un sujet signé Anne Verdaguet du service international de RFI. En France maintenant, c'est un procès inédit qui s'est ouvert près de Paris, celui d'une enseignante de français jugée pour harcèlement moral sur l'une de ses élèves, Eva L., une collégienne de 11 ans qui a fini par se donner la mort en 2019. Pour l'accusation, le harcèlement subi par l'enfant aurait contribué à lui faire perdre pied jusqu'au drame. L'enseignante qui conteste les faits a été brièvement entendue ce matin et cet après-midi place aux auditions des témoins et notamment l'ancien principal du collège d'Eva L. Bonsoir Baptiste Coulon, en direct du tribunal judiciaire de Pontoise au nord de Paris. Ça a été 3 heures d'audition, difficile pour ce témoin clé de l'affaire.
Oui, et comme l'ensemble des autres témoins entendus aujourd'hui, c'est un portrait élogieux de la professeure qu'il dresse d'emblée. Elle avait une certaine compétence pour aider les élèves en difficulté par la pédagogie, assure l'homme vêtu d'un costume noir. Mais pour l'accusation, les élèves en difficulté sont justement la cible régulière de l'enseignante. Et à l'époque, le principal avait soutenu cette professeure défendant sa liberté pédagogique. Alors l'avocate des parents d'Eva L. l'interroge. Pourquoi l'avoir soutenue alors que vous connaissiez les faits qui lui étaient reprochés? Le principal tempère, assure qu'il a mener une enquête interne, éplucher son dossier, mais rien à lui reprocher, alors il me semblait évident de la soutenir. La même avocate lui rappelle certains mots cruels de l'enseignante à ses élèves. « Tu es débile, attardé ». Je ne peux pas croire qu'elle ait utilisé ces termes, balbutie le témoin, de plus en plus malmené par les questions. 6 ans après les faits, il admet ses regrets et aux parents d'Eva L. qui l'observent, il exprime sa tristesse qui est la sienne. « Pour moi, rien ne sera plus jamais comme avant ».
Baptiste Coulon, en direct du tribunal de Pontoise.